voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Dans cette deuxième émission La Voix du Kaizen, Jean-Michel Herbillon, père de quatre enfants, nous présente l'école Steiner de Logelbach. Une école alternative hors contrat où une place d'importance est donnée au développement de l'enfant par l'art et les activités manuelles.
J'en reviens à une autre notion dont tu parlais tout à l'heure en termes de contrat. Tu disais que l'école Steiner de Colmar est complètement indépendante et qu'il n'y a pas de lien avec l'éducation nationale. Comment ça se passe dans les écoles alternatives? Est-ce qu'il y a quand même un contrôle de l'État, de l'éducation nationale, sur la manière dont est enseignée la pédagogie, ou quel est le lien entre les deux systèmes?
Alors, il existe une forme de contrôle, mais ce contrôle est vraiment très très distendu dans une école hors contrat. C'est-à-dire que grosso modo, on va vérifier des choses qui sont un peu de l'ordre du béaba, par exemple la présence scolaire. Mais sur le contenu même du plan scolaire, des enseignements, l'école a vraiment grande liberté. Donc ça veut dire qu'elle agence véritablement les cours, les enseignements comme elle le souhaite, aussi sur la question de la durée, de la longueur de la journée, du rythme des vacances par exemple. Ce sont un ensemble d'éléments qui sont vraiment organisés d'une façon complètement autonome par l'école. Donc ça laisse une grande marge, une grande liberté, et en l'occurrence il y a très très peu de contrôle des services de l'État, donc de l'éducation nationale, sur ces processus d'apprentissage là, réellement. Après, on ne vit pas dans un monde complètement séparé, et ça je crois que c'est très important, parce qu'à tout moment les élèves sont susceptibles de rentrer dans cette école. D'ailleurs, les effectifs des classes croissent au fur et à mesure qu'on monte dans les âges. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui arrivent justement précisément des autres écoles où ça se passe pas très bien. Donc ça, c'est une réalité. Mais les élèves sont aussi susceptibles à tout moment de pouvoir sortir et de réintégrer le système éducatif. Donc clairement, il y a quand même des correspondances qui s'établissent. Voilà. Mais c'est vrai que globalement, on est dans une école et une grande liberté pédagogique. Ça se traduit par le fait que les enfants entrent à l'école plus tard, avec un an de décalage, mais ils vont prendre aussi un an de plus pour leur scolarité dans sa totalité, dans sa globalité. Et donc ça, c'est pas anodin, parce que en un an de plus sur un processus scolaire qui dure 12 ans, eh bien, ça va permettre de faire davantage de choses, et ça laisse une très très grande place aux activités manuelles et artistiques. Donc la musique est vraiment omniprésente à l'école. C'est une dimension qui est vraiment très importante, parce qu'on s'est aperçu que, alors je le reformule très, très mal, mais ce que j'ai compris, c'est que la musique permet de déterminer l'ouverture de l'individu au monde, c'est-à-dire que l'amplitude qui est formée par les amplitudes qu'apporte la musique permettent justement de déterminer comment l'être humain va être ouvert au monde. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'observer ça. Il y a des études scientifiques qui ont planché sur ces questions-là. La musique est vraiment omniprésente dans cette école, comme l'est le théâtre également. Et d'une façon générale, il y a beaucoup d'activités manuelles. Les activités manuelles vont suivre le rythme de l'enfant, et à chaque fois ont une vocation très très précise, qui est de se confronter à la matière du monde et de le modeler, hein, puisque l'objectif, c'est que l'être humain puisse modeler le monde. Donc dans les petites classes, en première classe, on fait du tricot. On commence donc par des matières qui sont vraiment très souples. Ensuite, on va faire de la couture, du point de croix. Et plus on monte dans les classes, plus la matière qu'on va travailler devient dure. Jusqu'à ce qui est vraiment pour moi édifiant, c'est vraiment la plus belle image qu'on peut imaginer, c'est que les enfants qui ont à peu près 14 ans à l'école Steiner, dans toutes les écoles Steiner, c'est vraiment un passage obligé, il y a une forge, et donc on va travailler le fer, et on va avec le marteau et l'enclume, on va effectivement taper de toutes ses forces pour forger faire du fer forgé et façonner. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans les petites classes, le travail de la laine, c'est vraiment le travail de la dextérité, autrement dit de la plasticité du cerveau, hein, parce que la dextérité manuelle permet en même temps de travailler la plasticité du cerveau, la malléabilité. Et puis, quand on a 14 ans, c'est plutôt la volonté qu'on va forger. En tapant comme un dingue sur l'enclume, c'est véritablement forger cette volonté qui fait qu'à un moment donné, on peut être vraiment droit, ancré, fort, volontaire dans la vie. Et ça, c'est vraiment des beaux apprentissages. Et entre-temps, on a travaillé On a travaillé l'étain, on a travaillé bien sûr le bois de toutes sortes de façons possibles, on a travaillé le verre, on a beaucoup travaillé évidemment sur le plan plus artistique le dessin, la sculpture. Ce qui est aussi particulier pour faire un peu vite, c'est qu'on danse beaucoup dans les écoles Steiner, donc ça c'est quand même aussi un processus vraiment absolument magnifique. Que de voir des enfants qui ont 13-14 ans, qui vont s'adonner aux danses folk, c'est-à-dire les danses de ronde, les danses en groupe, hein, les cercles circassiens par exemple, hein, qui étaient des danses populaires qui permettent d'habiter l'âme des peuples et des différents peuples du monde, hein. J'y reviendrai peut-être. Et puis un peu plus tard, donc deux ans plus tard, on apprend les danses de salon, c'est-à-dire la valse, le tango, le paso doble, et ainsi de suite, la salsa, le cha-cha-cha. Voilà. Et ensuite, on se donne en démonstration et on fait danser les parents, mais après la démonstration des jeunes qui font ça magnifiquement bien, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de droiture.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Jean-Michel, tu es père de 4 enfants qui ont tous ou qui sont tous aujourd'hui à l'école Steiner. Je me souviens que moi, enfant, dans le système d'éducation nationale classique, pour faire plaisir à mes parents, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aie de bonnes notes. Tout était basé sur l'évaluation en classe et fallait ramener des bonnes notes. Comment ça se passe à l'école Steiner? Comment est-ce que les enfants font plaisir à leurs parents?
Alors, d'abord, la question est de savoir si les enfants ont besoin de faire plaisir aux parents. Ça, c'est la première question. Moi, fondamentalement, je suis pas convaincu de ça. Je crois que ce qui peut faire plaisir aux parents, c'est que les enfants soient libres et adonnés à qui ils sont eux-mêmes. Et pour ce qui est du système d'évaluation dans une école Steiner, en effet, il n'y a pas de notes, hein. Donc, pendant très très longtemps, il n'y a pas d'apprentissage noté. Les notes apparaissent quand même, mais en fin de scolarité. Donc quand on se rapproche du bac, en réalité, pour qu'à un moment donné, le gap qui se fait entre cet enseignement, qui est quand même très particulier, et l'éducation nationale puisse se réduire. Mais très souvent, ce sont plus des appréciations. Donc on va donner en retour une image du travail de l'enfant. Ça tient plus à l'ordre de l'image ou de l'appréciation qu'à la note, parce que la note permet le classement, mais on ne classe pas les images. Donc ça c'est vraiment, alors c'est pas qu'on donne des bonnes images, hein, c'est pas ça, mais on fait un retour sous une forme imagée à l'enfant, en effet. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que donc à l'école, hein, donc pas au jardin d'enfants mais à l'école, chaque année en fin d'année, le professeur remet à la famille un bulletin. Et dans ce bulletin, il y a des indications très très intéressantes sur l'enfant. En fait, le prof va pas tant évaluer les acquisitions scolaires de l'enfant, ça fait partie du bulletin, mais va surtout donner une image de qui c'est cet enfant qu'on m'a confié. Comment je le regarde, comment je l'ai approché, quelle perception j'en ai sur tous ces aspects. Et alors, de façon un peu plus factuelle, on va dire comment l'enfant, non pas ce qu'il aura acquis, mais comment il a abordé les apprentissages. Hein, ça, c'est très, très intéressant, parce qu'on peut regarder le résultat, mais on peut aussi regarder le processus et de voir comment on approche la question, comment on se lie à un moment donné à un enseignement, comment on se lie à une matière. Pourquoi l'enfant se lie de telle ou telle façon à la matière? Qu'est-ce que ça nous dit sur sa personne, sur qui il est? Et c'est un régal de regarder en tant que parent ces bulletins, parce qu'on découvre notre enfant sous un autre angle, sous un autre regard, mais c'est toujours très nourrissant. Voilà. Plus tard, ils ont des bulletins, donc à partir des grandes classes, c'est-à-dire entre la 8e et la 12e classe, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Alors là, effectivement, on a un bulletin trimestriel. Et là encore, il n'y a pas de notes au sens chiffre, mais il y a des appréciations cette fois-ci au sens de lettres. Hein. Donc une appréciation sur les résultats scolaires, une appréciation sur l'engagement. Et il y a une troisième dimension un peu de cet ordre-là. Et à chaque fois qu'il va donner une lettre entre A, B, C, D, avec éventuellement des plus. Hein. Donc on peut avoir un A- ou un A++. Okay. Voilà, mais ce n'est pas des notes en tant que telles. Et ces jeunes à cet âge-là ont besoin de repères qui sont un peu plus précis. Okay. Les lettres, là encore, permettent d'éviter tout cet esprit de compétition qui aboutit à des moyennes à un moment donné. Et ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que l'enfant dans une école Steiner vient pas seulement avec sa tête, il vient aussi avec son cœur et avec ses mains. Et chaque enfant trouve son terrain d'expression et son terrain d'accomplissement. Alors, il y a des enfants qui vont avoir naturellement, spontanément, des problèmes avec l'une ou l'autre des matières, peut-être en maths, peut-être en français, mais qui vont trouver leur pleine expression, par exemple, dans les matières artistiques. Et ça, c'est vraiment, ou les matières manuelles. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que ça veut dire que chaque enfant a quelque chose de son don naturel, de son talent naturel à faire valoir. Donc, il n'y a pas ce processus de dévalorisation. À un moment donné, on est vraiment repéré pour qui on est. Et on a vu des enfants, par exemple, qui étaient très, très timides en classe, avec des résultats scolaires très moyens, et d'être de formidables acteurs dans des scènes de théâtre, hein, ou qui vont vraiment exceller dans la musique. Et ça, c'est vraiment formidable de remarquer que chaque être humain a un talent naturel.
Ça paraît plein de bon sens, en fait. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est le bon sens qui parle.
Oui, c'est l'humain au cœur et c'est le bon sens, en effet. Pourquoi est-ce qu'on parle d'éducation alternative? Pourquoi ça doit être alternatif? Pourquoi ça ne devrait pas juste être la norme? On est loin de ça, je pense, dans le plan scolaire d'une école classique aujourd'hui, où la question de l'autorité se pose de façon radicalement différente, la liberté de manœuvre des profs également, et puis tout simplement le regard sur l'être humain est radicalement différent. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le panel des métiers qui vont devenir les métiers de ces jeunes qui sortent des écoles, il est très large. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui se retrouvent aussi dans des métiers qui sont des métiers qui ont presque disparu, hein, ou des métiers d'art, par exemple, et qui vont vraiment trouver à leur petit modèle économique de pouvoir vivre en refaisant la jonction avec des métiers qui avaient totalement leur place à une certaine époque. C'est vraiment intéressant de voir que dans une école Steiner, on va stimuler des compétences, on va stimuler des possibilités. Et donc, du coup, ça ouvre l'éventail, le champ des possibles pour ces jeunes dans leur devenir professionnel ultérieurement, quoi.
Mais à l'inverse, est-ce que ça peut arriver aussi que des jeunes sortant de l'école se dirigent vers des écoles de commerce pour devenir, je ne sais pas, chef d'entreprise, banquier?
Oui, ça peut arriver aussi. Ça serait intéressant de voir statistiquement si c'est le cas ou si c'est pas le cas à même proportion. Je pense pas que ce soit à même proportion parce que ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que les gens qui sont dans les études d'école de commerce en particulier sont de plus en plus en quête de sens aussi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que il y a justement un retournement dans l'enseignement classique dans les écoles Steiner. Naturellement, il est possible d'accéder à ces métiers-là. Ma belle-sœur, par exemple, est architecte de haut niveau. Elle a fait toute sa scolarité dans une école Steiner. Dans les amis de mon aîné, il y a des gens qui se dirigent sur des carrières d'avocat. Enfin, en tout cas, qui ont le souhait de rentrer dans les écoles de droit, en fac de droit. Ces métiers sont ouverts, sont accessibles parce que, de toute façon, le produit de cette scolarité, c'est quand même d'arriver à un moment donné ou à un autre au bac. Naturellement, on peut bifurquer avant également, mais l'objectif, c'est quand même de passer le diplôme qui va permettre d'ouvrir l'enseignement supérieur si tant est qu'on souhaite y aller.
Et donc là, quand le jeune de l'école Steiner arrive au niveau du bac, hein, il peut très bien réintégrer le système classique et il va réussir à passer son bac avec aussi facilement, avec autant de succès que quelqu'un qui a toujours été dans le système classique.
Alors là, on peut vraiment dire de façon absolument affirmative que oui. Et plus que ça, moi, les échos que j'ai pas eu de contact direct, mais les échos qu'on a, c'est que souvent, alors ce qu'il faut savoir, c'est que leur dernière année, leur année de terminale, se fait dans un lycée autre. C'est-à-dire que là, en tout cas pour ce qui est de l'école Steiner de Colmar, dans laquelle vont nos enfants, on s'arrête en fin de première. C'est-à-dire que la terminale doit se faire dans un lycée classique. Alors soit dans l'école publique, soit éventuellement dans l'école confessionnelle, mais en tout cas il faut intégrer un lycée ordinaire, en milieu ordinaire. Et très souvent, les échos qu'on a, c'est que les profs de terminale classique aiment bien voir arriver les élèves d'école Steiner, parce qu'ils sont curieux. Ils sont curieux, ils ont une façon de se comporter qui est un peu différente. Ils sont, ils amènent une couleur particulière dans ces classes de l'éducation classique. Et on a eu très souvent des retours de cet ordre-là. Donc, mais au final, l'objectif, c'est d'obtenir le bac pour pouvoir poursuivre ensuite.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Jean-Michel Herbillon, donc là tu me parles de la scolarité de tes enfants à l'école Steiner, mais tu as aussi, à titre personnel, créé une crèche.
Alors, je fais partie, en effet, je suis président d'une association qui s'appelle Prime Enfance et il y a un collectif hein, qui a permis de réunir des professionnels de la petite enfance et des parents qui étaient désireux de créer un lieu alternatif pour l'accueil des enfants en bas âge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école Steiner, on rentre en général à 3 ans, mais qu'il y a aujourd'hui une demande dans la société pour des accueils avant cet âge. Et ça nous paraissait cohérent de pouvoir offrir un lieu d'accueil qui soit conforme à cette vision, à cette idée hein, d'une enfance perçue sous un regard très alternatif, bienveillant. Et donc, on a été à l'origine d'une éco-crèche qui se situe aujourd'hui à Colmar et qui est un véritable beau projet qui rayonne quelque chose de très particulier autour de l'idée de l'enfant et de l'enfance. La particularité de ce projet, c'est qu'il est humble, c'est une petite crèche, mais il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce lieu. L'idée de départ, c'était de dire « nous ne souhaitons pas faire une garderie d'enfants ». Et d'ailleurs, on dit très régulièrement aux parents qui s'adressent à nous pour mettre leur enfant dans notre crèche, on leur dit, vous savez, ça ne nous intéresse que moyennement de garder les enfants des autres. C'est pas ça le sens du projet. Le sens du projet, c'est d'être bien davantage qu'une garderie d'enfants, c'est d'être un lieu de vie où il se passe quelque chose sur le plan humain. C'est-à-dire un lieu dans lequel un enfant peut grandir de façon saine et équilibrée, à son rythme, dans qui il est. Hein. Donc là, on revient aux valeurs fondamentales de la pédagogie Steiner. Mais plus que ça, un lieu dans lequel une famille peut grandir avec son enfant et un lieu dans lequel une équipe de professionnels va pouvoir grandir avec une famille. Donc c'est un lieu où tout le monde doit pouvoir grandir d'une façon ou d'une autre. Donc l'idée, c'est de créer une qualité de relation humaine qui permet justement cette croissance de l'humain. Et de, par des gestes concrets, par un mode d'accueil, par des pratiques professionnelles, d'interpeller les parents sur des façons de faire et d'amener justement cette conscience de qu'est-ce que c'est que cet enfant dont je suis en charge de l'éducation en tant que parent. Donc du coup, il y a toute une dimension également d'accompagnement à la parentalité, mais pas tant sous une version théorique. L'objectif n'est pas d'apporter de la théorie, mais simplement de montrer des gestes, de montrer des attitudes et d'apporter des éléments d'un regard particulier, conscient sur l'enfance, sur cette période toute particulière qu'est la petite enfance en particulier, d'où le projet Prime Enfance.
Dernière question pour finir, sur l'éducation. On m'a bassiné dans toute mon enfance qu'il fallait que je réussisse. Qu'est-ce que c'est que réussir ?
Ben, je pense qu'un être humain aura réussi quand il va accéder au bonheur et à la joie. Et pour dire les choses autrement, quand on est bien dans ses baskets, quoi qu'on fasse ou qu'on se trouve, alors je pense qu'on peut dire qu'on a réussi. Maintenant, à quoi on doit mesurer ça ? Hein, si c'est la réussite économique, c'est encore très très différent que la réussite d'une vie au sens d'accéder véritablement au bonheur et à l'accomplissement. Nous, dans la façon dont on a éduqué nos enfants, et aujourd'hui, enfin là j'ai été très positif dans ce que j'ai pu relater, parce que fondamentalement je crois beaucoup au processus qu'on a traversé, au choix qu'on a fait, mais au quotidien on a quand même des ados à la maison, c'est pas simple du tout, on est des parents qui sommes comme les autres parents très confrontés par toutes sortes de choses, mais ça reste que je vois des enfants qui s'épanouissent et qui ont acquis cette forme de liberté, d'autonomie saine, de saine autonomie. Hein. Et alors naturellement, c'est encore en process, hein, mais ça reste que je pense que le mieux qu'on puisse leur donner ou leur offrir, c'est justement de pouvoir s'édifier en tant que véritablement être humain. Voilà. Et qu'ils doivent pouvoir accéder à un moment donné au bonheur. On est des parents quelquefois un peu curieux. C'est vrai que le dernier cadeau qu'on a fait à notre aîné, c'était un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de réussir ses études. Non, pardon, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et qui est un livre très intéressant qui a été écrit par quelqu'un qui effectivement a raté ses études et qui montre que la vie peut nous sourire d'une magnifique façon aussi quand on rate complètement ses études, et quelquefois c'est une formidable chance. Donc c'est vrai que c'est important de nourrir ses enfants en montrant qu'il y a une vision totalement alternative du monde et que l'important c'est à un moment donné de pouvoir se positionner et de se déterminer, et pour ça il faut être libre. Donc finalement, pour répondre, la réussite, j'en reviens au point de départ, c'est la liberté.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.